France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
En ces temps difficiles, quoi de mieux que de recevoir deux humoristes et comédiens pour nous parler des spectacles qu'ils ne joueront pas, du moins en novembre. Avec Philippe Chevalier, d'abord, nous évoquerons quelques souvenirs des débuts avec L'Aspalès au portrait de Paris Première en passant par le théâtre. Après quoi, Emeline Bayard, aussi douée pour le vaudeville que pour la chanson, nous fera découvrir ses petits trésors musicaux. Ajoutez pour finir un programme de musique légère signé Serge Elaïc. Nous nous sommes mis en quatre pour meubler agréablement ce premier samedi confiné où nous ne pourrons pas nous voir, mais au moins nous téléphoner.
Ici Baronne de Monteuil.
Oh, c'est vous, Marianne.
Cher ami, c'est moi. Je ne vous ennuie pas.
Mais non, pas du tout. Comment allez-vous?
Si vous voulez, sortons tous deux.
Vous avec moi? J'en suis heureux. Où nous trouvons-nous? Vite, un rendez-vous.
Je veux m'amuser, danser, me griser.
À l'Impéria, je vous attends.
C'est dit.
C'est fait, je viens à l'instant. Le téléphone, c'est merveilleux. Quand on fredonne un air à deux, on fait tout bas de bien beaux songes. Et l'on se dit, c'est doux. Mensonge, le téléphone, c'est amusant. On s'abandonne aimablement. Le téléphone, vous m'écoutez? Allô?
Allô?
Zut, c'est coupé.
Allô? Allô? Allô?
Le duo du téléphone, avez-vous reconnu la voix de Jean Sablon? Et oui, c'était lui, bien sûr, en 1930, dans cette conversation qui, malheureusement, à la fin, est coupée. Mais il peut arriver aussi que la ligne soit simplement occupée. C'est le sujet de cette chanson de la ravissante Rose Murphy, Busy Line.
I put a nickel in the telephone, dial my baby's number, got a busy line. Each time busy tone, not my baby's number, just a busy line. Called his uncle in Jamaica, left a message with the baker, even checked the number in the telephone book. Got so awfully, awfully worried, to my baby's house I hurried. When I looked inside, the phone was off the hook. And as I walked up to my baby then, I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine, busy kissing someone else, while I was keeping busy getting a busy line. Da, 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 busy line. Baby, then I got my baby's number. He was busy in the park.
est-ce qu'elle n'est pas charmante, Rose Murphy, avec sa petite voix haut placée. C'était une très bonne chanteuse et pianiste de jazz. Il paraît d'ailleurs qu'elle a influencé dans sa façon de chanter. Vous l'aurez peut-être deviné en l'écoutant, Marilyn Monroe.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais aujourd'hui, je vous le disais, j'ai voulu apporter mon amical soutien à ceux qui savent nous enchaîner sur scène et qui ne peuvent plus le faire pendant plusieurs semaines. Tout à l'heure, ce sera Emeline Bayard qui vient de monter On purge bébé de Fedot. Mais d'abord, bienvenue à un homme qui aime croquer notre époque sur les plateaux de radio ou de télé et qui n'a pas honte d'aimer le boulevard, qu'il soit classique ou contemporain, seul ou en duo avec son ami Las Palès. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Philippe Chevalier.
Jusqu'en Arizona, parfum sucré, odeur de chinchilla, Ruta bagage, chichi et nymphéa, toujours l'amour, toujours on s'aimera. Une armada de starlettes, des divas, a fait des mois les mecs les plus ultra. Je n'aime que toi, chérie, je n'aime que toi, mais je pense à moi, je pense à moi. Je suis à toi, oh oui, je suis à toi. Mais tu n'es pas là, tu n'es jamais là. Des minima, choisis les maxima. Des rendez-vous remplis mon agenda. Un jour peut-être, vas-y, tu voudras descendre avec moi, station Nirvana. Numéro gagnant de Tombola. Alléluia, tu as misé sur moi. Je n'aime que toi, chérie, je n'aime que toi. Mais je pense à moi, je pense à moi. Je suis à toi, oh oui, je suis à toi. Mais tu n'es pas là, tu n'es jamais là. Je n'aime que toi.
Bonjour Philippe Chevalier.
Bonjour Benoît Duterte.
Ça me fait toujours plaisir d'accueillir les comédiens sur une chanson qu'ils ont enregistrée, parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui pas mal de comédiens qui font des chansons. J'en ai trouvé une, j'en ai trouvé une, c'est celle-ci.
Oui, c'est une chanson qui a été écrite par un ami qui s'appelle Guillaume Stirn, qui a fait les paroles et la musique, qui a un frère qui s'appelle Renaud et avec lesquels on a souvent collaboré dans nos spectacles. Ils ont fait les musiques de nos films et un jour Guillaume m'a proposé d'interpréter ça. Alors, comme je m'amuse parfois à avoir une voix un peu d'opérette, une voix de fausset, je l'ai interprétée comme ça. Je trouve que c'est une chanson qui est très rigolote, qui est amusante. Il y a un bon, il y a une bonne mélodie, surtout dans le refrain. Et on n'en a jamais fait de disque. On est allé voir une fois une maison de disque, mais bon.
Avec, vous voulez dire avec Régis Las Palès?
Non, avec Guillaume Stirn, le compositeur.
Ah oui, pour faire un disque complet.
Pour faire un disque complet. Et en fait, ce qui a gêné, je pense, en tout cas, il était très bien élevé. Mais moi, je trouve que la chanson est drôle. Il a dit, mais il faudrait une chanson à tous les deux. Et Las Palès n'a pas envie de chanter. Donc, vous voyez, c'est cette dualité. On est une structure bicéphale. Et donc, si on fait un truc tout seul, c'est toujours plus compliqué.
Bon, en tout cas, vous le savez peut-être, j'ai toujours plaisir à accueillir dans cette émission des humoristes, des comédiens qui font vivre au théâtre un esprit léger qui rejoint aussi toute une tradition musicale. Vous avez cité à l'instant l'opérette. Et c'est pourquoi j'avais envie de vous recevoir à l'occasion d'un spectacle qui, malheureusement, comme tous les spectacles... c'est interrompu pour un certain nombre de semaines. Ça doit faire évidemment un drôle d'effet quand on est en pleine tournée.
Oui, le spectacle est suspendu.
Alors, il s'agit de Panique au ministère, pièce à grand succès que vous reprenez.
De Guillaume Mélanie et Jean Franco. Pour cette reprise, c'est Guillaume Mélanie, l'un des deux auteurs, qui a fait la mise en scène, avec évidemment une nouvelle distribution, parce qu'au départ, elle avait été créée par Amanda Lear. Là, c'est Julie Arnold qui reprend le rôle d'Amanda. Et il y a une équipe donc nouvelle, est tout à fait sympathique et excellente. Et alors, on a eu l'occasion quand même de jouer 4 fois devant des salles qui étaient aux 3/4 pleines ou aux 2/3 à cause des barrières sociales. Et ça n'enlevait en rien le rythme et l'enthousiasme du public qui était masqué et qui riait beaucoup. Donc, on a été très déçus. On est un peu tous tombés de la Tour Eiffel quand on nous a appris il y a 8-10 jours que notre tournée s'interrompait.
Et nous voilà tous deux face à face avec des masques sur la figure.
Exactement.
Est-ce que l'humoriste que vous êtes, l'homme qui aime étudier et détourner par le rire son époque, pourra arriver un jour à s'amuser de l'épisode masqué de 2020?
C'est-à-dire que d'abord, on n'a pas tellement le choix. C'est la formule de Beaumarchais. Hein. Se presser de rire de peur d'avoir à en pleurer, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que la situation est en réalité dramatique. Elle est dramatique pour, on entend souvent des comédiens, effectivement, qui d'ailleurs souvent se revendiquent de la culture. Ils ont raison. Moi, j'aurais pas cette prétention. Je me revendique pas de la culture. Je me revendique du divertissement. Et encore pour ceux qui peuvent, évidemment, m'apprécier.
Qui est aussi le projet de cette émission.
Oui, mais enfin, le divertissement au sens pascalien du terme, ça englobe beaucoup de choses, hein.
Vous avez raison.
C'est la fantaisie, c'est la joie de vivre, etc. Et là, on vit une époque qui est très pénible. Parce que moi, il y a une chose qui m'étonne, et je ne veux pas faire de politique, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel aux cliniques, c'est-à-dire au personnel privé ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on le fait, mais on n'en parle pas. C'est assez étonnant.
En tout cas, écoutez, merci d'être avec nous ce matin, et je pense que le mieux qu'on puisse faire maintenant, selon un peu les habitudes de cette émission, c'est de remonter un petit peu dans le temps. Et alors, j'ai choisi une musique qui, je crois, évoque un peu vos premiers souvenirs musicaux. Une des danses polovtiennes de Borodine. J'adore cette musique, Philippe Chevalier. Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir, d'autant plus.
Ah, tant mieux.
Je me plains parfois qu'on ne donne jamais plus ces œuvres au concert, ces œuvres autrefois très populaires. Et c'était si populaire que vous avez découvert ça tout jeune?
Oui, parce que c'est un souvenir d'enfance, puisque mes parents étaient abonnés, enfin recevaient des disques. C'était déjà de la vente par correspondance, en quelque sorte. C'était la Guilde internationale du disque. Alors c'est comme ça que j'ai entendu Philippe Entremont. Dont j'ai appris d'ailleurs qu'il était toujours vivant, ce qui est normal, puisque, mais moi, comme c'était il y a pratiquement 60 ans, il devait être tout jeune, quand c'était un prodige.
Il a fait une queue.
Moi, je me disais, il a 200 ans, mais pas du tout, Philippe Entremont. Et alors, il y avait le concerto pour violon de Beethoven, et il y avait ces danses polovziennes que j'adorais, donc de Borodine. Alors là, je ne sais pas ce que c'était comme orchestre, mais c'était...
C'était pas Voyervi avec l'orchestre du théâtre Mariinsky.
Oui, c'est ça. Que vous nous avez fait entendre. Mais moi, à mon époque, c'était donc il y a 60 ans, je ne sais pas dire. Mais alors, ça m'enchantait, ça, ce côté. Je trouve que c'est l'âme russe parfaite.
Ouais,
On est vraiment en plein dans le. La russitude.
La russitude, et oui. Vous, en tout cas, c'est la bretonitude qui vous a mis oui, au oui. jour, si j'ose dire.
Oui.
Bien que vous ayez pas mal voyagé dans votre jeunesse avec votre père magistrat, je crois.
Oui, c'est ça. Alors, je suis breton par mon père, mais pas du tout par ma mère. Voilà. D'ailleurs, ma mère a du sang russe. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être une petite adéquation, là.
Il paraît que votre mère est évoquée souvent comme une femme très fantaisiste. Est-ce qu'elle vous a un très peu drôle. Poussé sur la voie de la comédie, d'une certaine façon, involontairement?
Alors, involontairement. Ma mère avait une qualité qu'on voit chez certaines personnes drôles et comiques, c'est-à-dire qu'elle était comique, elle avait de l'esprit,
oui.
donc elle avait beaucoup d'humour, et en même temps, elle était drôle malgré elle. comme
ça.
Par exemple, d'ailleurs, beaucoup de personnes sont comme ça. Je pense que les grands comiques, ou même les gens d'esprit, sont des gens, ou les gens d'humour, sont des gens qui ont malgré tout une nature comique. Alors elle était extraordinaire, elle faisait elle était drôle. Elle était, par exemple, capable de dire au téléphone à une de ses amies « Mais oui, ma chère, très bien, je vous embrasse. » Et avant de raccrocher le téléphone, me dire, moi j'étais à côté, me dire « Quelle andouille celle-là !» Mais c'était avant qu'elle ne raccroche. Bon, enfin, des choses comme ça. Elle était fantasque.
Et vous-même, d'ailleurs, vous faisiez rire vos petits camarades sans le vouloir à l'école.
Oui,
hein.
Mais ouais. Oui. J'aimais faire rire, mais j'ai découvert que j'aimais faire rire parce que je me rendais compte que je faisais rire malgré moi. Donc on est dépassé, je pense, par son propre, je dirais pas son propre talent, mais c'est vrai qu'il y a un don. Ce que je reproche à certains, il y a pas mal de jeunes comiques aujourd'hui qui ont beaucoup de talent.
Ouais.
Ils ont vraiment beaucoup de talent, ils sont désinhibés, ils ont une technique extraordinaire, ils sont à l'aise, ils ont des textes qui sont pas mal, mais parfois ils manquent de drôlerie,
ouais,
ce qui est embêtant pour un comique.
La drôlerie, c'est autre chose, ouais. Il y a une autre femme qui vous a beaucoup marqué, peut-être.
Il y en a eu beaucoup.
On pourrait faire
les pauvres. Je les plains rétrospectivement.
Non, mais là, je pense à une en particulier, qui était d'ailleurs l'épouse de Jean-Pierre.
Oui, c'est ça, c'est Françoise Angèle.
Oui.
Françoise Angèle Piat, qui était mon professeur au cours Simon. Enfin, c'était pas mon professeur exclusif. Et c'est par elle que j'ai rencontré la Spalès, non pas au cours Simon, mais au cours qu'elle avait ouvert après.
Ensuite,
de son côté,
vous
ensuite.
Aviez fui tous ensemble les cours Simon,
voilà, c'est ça. En fait, moi, j'ai été viré du cours Simon, mais c'est pas là que j'ai rencontré la Spalès. Il y était aussi, mais pas en même temps que moi. Et on s'est retrouvés tous les deux au cours de Françoise Angèle Piat. Et on a tout de suite sympathisé et elle nous a poussé à écrire. Ce qui est assez rare d'ailleurs chez un professeur d'art dramatique, qui aurait plutôt tendance à dire « Ah ben non, il faut que vous jouiez les mots ». Et elle a vu qu'on avait de la fantaisie tous les deux, qui était une fantaisie complémentaire, et elle nous a poussé dans cette à écrire. Et on a effectivement écrit un premier spectacle qu'on a rodé chez elle, devant nos camarades.
Voilà.
Et après, on est allé au Café d'Edgar. Là, on a rencontré toute la bande qui allait aller après ensuite au Théâtre de Bouvard. Donc on a eu beaucoup de chance.
Alors,
et Françoise Angèle a été vraiment le tremplin, si je puis dire, oui.
On pourrait avoir l'impression que, évidemment, Chevalier et la Spalès, c'est quelque chose qui a tellement triomphé que ça a toujours marché, mais ça n'a pas été si facile que ça au début. Hein. C'est vraiment Bouvard et son petit théâtre qui ont propulsé vos spectacles à l'avant-scène.
Oui, vous avez raison, Benoît. Notre pièce qu'on jouait dans un petit café-théâtre, café d'Edgar, à Montparnasse, était une pièce un peu surréaliste qui s'appelait « Pas de fantaisie dans l'Orangeade ». Et qui faisait beaucoup rire nos amis Michel Bernier, Bruno Gassiot, Jean-Jacques Perroni, tout ça, parce qu'on était tous la bande, Seymour Bruxelles, Pascal Légitimus, mais ça ne faisait rire presque que. C'est-à-dire que le public, c'était la bataille d'Hernani à chaque fois qu'on jouait. Il y a des gens, ils disaient, mais ils sont complètement fous.
Qu'est-ce que c'est de type?
Qu'est-ce que c'est que ces deux crétins? Et parce qu'on répétait les choses. On répétait les choses à telle enseigne d'ailleurs que. Alors en revanche, on a vu des bonnes critiques.
Ah oui.
On a eu une très bonne critique de Jean-Luc Génère, qui nous avait dit, j'ai l'air de me vanter, mais c'est parce que je parle de mon passé historique.
Oui, bien sûr.
Jean-Luc Génère avait dit, les bronzés ont lu Beckett, à propos de cette pièce qui s'appelait « Pas de fantaisie dans l'Orangeade ». Et un homme de radio, qui était Jacques Bins, que vous avez dans cette maison, qui avait une émission radiophonique très célèbre le samedi matin, je crois que ça s'appelait le Pont des Arts, je crois, qui était un ancien surréaliste. Et comme il était surréaliste, il avait beaucoup aimé notre spectacle qu'on avait joué pour lui tout seul, parce qu'il n'y avait personne. Et il avait comparé notre écriture, excusez-nous du peu, à celle de Gertrude Stein. Parce qu'il y avait beaucoup... Donc on était parti quand même sous les meilleurs auspices avec un A. L'auspice maintenant avec un H, ça va être pour moi bientôt.
Mais les emplois, disons, qui sont relativement déterminés de chacun des deux, ça s'est trouvé très vite.
Oui, oui.
L'Auguste, comme on dit parfois pour vous, et puis le...
Non, alors l'Auguste, c'est l'Aspalès.
L'Aspalès, pardon.
Ça, voilà. Oui. Moi, je suis le clown blanc.
Le clown blanc, pardon.
Le clown blanc, c'est-à-dire le raisonneur, celui qui sait, celui qui parle, et l'autre
voilà,
est le crétin, en fait, qui est beaucoup moins crétin qu'il n'en a l'air.
Ça, c'est arrivé spontanément.
Oui, parce que c'est une nature, l'Aspalès. Alors, on n'a pas le choix. Parce que moi, avant de le connaître, je faisais plutôt les Augustes.
Oui.
Puis quand vous êtes avec un tel bonhomme, vous n'avez pas le choix de faire autre chose que le clown blanc.
Alors, comme on est dans une émission musicale, j'ai cherché un petit peu et puis je me suis dit, tiens, que peut-être pour évoquer évidemment cette période très riche, on pourrait juste écouter une petite interview d'un chanteur.
Oui.
Et Eric, c'est super de te recevoir parce que tu sors ton premier disque. T'es numéro 1 top 50 et avant t'avais jamais chanté ni fait de musique.
Ouais, c'est peut-être pour ça, je veux dire.
Ouais. Quel effet ça fait, c'est super, non?
Ouais, bah disons que ça me fait vachement plaisir pour moi, je veux dire.
Ouais.
Au niveau personnel, je veux dire.
Ça t'est venu comment cette chanson? T'as eu un flash?
Bah disons que j'ai fait une rencontre.
Ouais.
Parce que je crois beaucoup aux rencontres dans ce métier, tu vois.
Ah, il faut quand même signaler que celui qui t'a lancé, c'est le plus gros producteur de disques en Europe. Et c'est ton père.
Ouais, disons que j'ai eu la chance de rencontrer mon père.
Mais alors après, ça a été vachement vite quand même, parce que t'es allé enregistrer à New York avec les meilleurs musicos.
Ouais, les Machu Cambos.
Ouais.
Bon, c'est pas évident d'aller à New York, même si tu vis dans un palace, toi.
Ouais, mais tu connaissais déjà les States. C'est pas la première fois que t'y allais.
Ouais, mais j'y allais comme ça le week-end avec des potes, pas pour bosser, toi.
Ouais. Ouais, super. Ouais, t'y allais juste pour le fun.
J'aime pas les mots anglo-saxons comme fun. C'est un peu destroy, quelque part.
Ouais. Alors après, t'as eu une enfance difficile, enfin, avec tes parents, parce que vous étiez toujours entre Monaco, les Seychelles, Los Angeles, Melun.
Ouais, c'était chiant. Surtout Melun.
Ouais. Alors, je voudrais te poser une question qu'on pose toujours dans ces cas-là. La scène, c'est pour bientôt?
Ouais, la scène, ça me branche, je veux dire, mais ce qui m'emmerde, c'est le public.
Et tu penses à quoi comme scène pour débuter?
Le Zénith.
15 jours au Zénith, alors on peut le dire?
Un jour, ça suffira, toi.
Ouais.
Parce que j'ai pas envie d'aller au boulot tous les soirs.
Ouais.
Je suis pas un fonctionnaire.
Ouais, super.
Thank you.
Et la fameuse marche militaire en ré majeur de Franz Schubert, c'était bien naturel de mettre un peu de musique de piano à quatre mains pour évoquer Chevalier et la Spalès qu'on entendait juste auparavant. Mais en plus, le piano à quatre mains, ça a été le sujet pratiquement d'une des pièces que vous avez jouées après vos sketchs et vos spectacles avec Régis Laspalès, qui s'appelait Le banc du piano.
Oui, une pièce de Sibleras qui était formidable. J'adore cet auteur et il nous a fait la gentillesse de nous faire jouer cette pièce qu'on a jouée au Théâtre Montparnasse. C'était une pièce extraordinaire, un peu surréaliste là aussi. On parlait de surréalisme tout à l'heure. Parce que ce sont deux pianistes à quatre mains qui se connaissent depuis 25 ans et qui se fâchent parce que leur banc de piano rétrécit. Donc on jouait avec trois bancs différents qui étaient plus petits à chaque séquence. Et c'était une très très belle pièce, très drôle, et en même temps folle et très profonde, comme l'écriture de Sibleras.
D'ailleurs, on va y revenir à votre goût, évidemment, pour le théâtre, qui s'est encore développé au fil du temps. Mais juste encore un mot sur le duo et les sketchs Chevalier-Laspalès. Vous nous disiez que votre professeur vous avait encouragé à écrire, mais comment ça se passait l'écriture d'un sketch tous les deux?
Très simplement, on était face à face et on envoyait nos répliques l'un après l'autre. Et
chacun écrivant son rôle?
On mélangeait évidemment. Les idées nous venaient concomitamment, en même temps ou alternativement. Et la distribution des rôles était assez évidente. En fait, la musique de chaque... Parce que c'est de la musique, un sketch.
C'est de la musique, ces deux voix.
Le théâtre aussi, d'ailleurs, c'est de la musique. Oui. D'ailleurs, Madame Pia nous disait une chose très, très, très drôle, je me rappelle. Au théâtre, pendant les 10 premières minutes... Le public n'écoute pas ce qu'on dit. Alors, c'est contradictoire avec la musique, mais il regarde d'abord. Il regarde comment, il a grossi, il est drôlement habillé, le décor est beau. Et il écoute quand même.
Il entend.
Oui. Donc il entend la musique. Ouais. Si vous allez voir une pièce de Racine, à moins de l'avoir vue 25 fois, je mets quiconque au défi. C'est pas un exemple évidemment très bien choisi, parce que c'est pas le genre de pièce où on rigole, mais Vous ne comprenez rien à l'exposition, parce que on vous explique un truc, vous comprenez rien, Phèdre, par exemple. Mais vous écoutez, il y a une partie de vous qui, sans pouvoir analyser, comprend quand même le sens du truc, parce que les gens d'abord regardent. Et après, c'est une musique, oui.
Alors, donc, on le disait avec Sibleras et beaucoup d'autres, votre duo a évolué après ces immenses succès, ces tournées à travers la France, à la fois vers le cinéma et vers le théâtre. Il y a eu bien sûr Ma femme s'appelle Maurice.
Ça a été notre première pièce. Voilà. Après, on a fait un classique qui était une pièce de Feydeau, Monsieur Chasse.
Voilà, Feydeau, justement, d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure avec Emeline Bayard. Ouais. Mais justement, ça me plaît que vous ayez monté tout de suite Feydeau, parce qu'au fond, j'ai l'impression, et c'est un peu le cas avec Panique au ministère, que vous deviez jouer en ce mois de novembre. Au fond, vous aimez la belle tradition du vaudeville et du boulevard, et vous pensez qu'elle peut se renouveler et qu'on sait aujourd'hui encore écrire des vraies comédies pleines d'esprit, comme le faisait Feydeau ou Labiche auparavant.
Et Jean Franco et Guillaume Mélany en sont l'exemple ou les exemples les plus frappants, parce que cette pièce, Panique au ministère, que j'avais vue moi il y a 10 ans et qui m'avait beaucoup fait rire, elle avait été montée par Raymond Acquaviva et alors, je connaissais Amanda Lear, parce que c'était un peu ma voisine de non pas de casier, ni de palier, mais de siège aux grosses têtes. J'étais souvent à côté d'Amanda, et qui me disait avec sa voix inimitable, pour ça que je ne me lancerai pas dans une imitation, « Oh, je joue une pièce en ce moment formidable, de deux petits jeunes, etc. » Donc j'étais allé voir la pièce, et je m'étais dit « Oh là là, j'aimerais bien jouer le rôle du ministre !» Et ce cadeau m'a été fait quelques années après par Guillaume Mélany. Et là, je suis très bien entouré, parce qu'il y a une Rebecca Hampton, qui est très populaire, comme Julie Arnaud, parce que je joue avec deux grosses vedettes. Grosses vedettes qui sont absolument adorables et charmantes et belles en plus. Il y a deux autres nanas, enfin excusez-moi, parce que parfois je dis des pépés, ce qui fait jeune, mais elles sont très jeunes. Donc, elles s'appellent Muriel Michaud et Amélie Robert, dont j'en connaissais une des deux. Et puis alors, elles sont formidables. Alors, on dit toujours c'est formidable, on va pas dire. Mais c'est vrai. C'est vrai, je dis vraiment avec des accents de sincérité Toto, et puis un jeune qui s'appelle Nathan Martin, qui joue mon jeune amant. Alors c'est, enfin c'est un faux amant, parce que je le fais passer pour mon amant. Oui, je vous rassure, oui. Et moi aussi, et lui aussi, le pauvre vieux. Il est tout jeune, et on a l'impression qu'il a 15 ans d'expérience, il est formidable.
Voilà, ça c'est Panique au ministère, Franco et Mélanie, qui sont un peu comme Barillet et Grédy.
Oui, parce que c'est pas leur première pièce, et ils en ont écrit beaucoup d'autres, comme Dernier Tour de Piste, c'est ça. Ils sont brillantissimes, ils sont charmants. Et la pièce, il y a une écriture mécanique, c'est vraiment du bon boulevard. Et on rime, alors, c'est énormément.
Alors, dans vos jeunes années, Philippe Chevalier, il y avait d'un côté la musique classique, on a entendu Borodine tout à l'heure, Beethoven et bien d'autres, et puis il y avait les chansonniers, les chanteurs comiques, les acteurs comiques qu'on écoutait aussi à la maison sur un vieux phono.
Oui, exactement.
Un vieux phono, je vous vieillis un peu quand même.
Il n'y avait pas le pavillon, d'ailleurs on n'avait pas de pavillon, on habitait en appartement. Et il y avait, alors, le chansonnier préféré de mes parents, c'était Robert Lamoureux.
Et moi, j'ai
eu la chance de le rencontrer. Et c'est un homme extraordinaire. C'est un homme de. C'est un des promoteurs de. Enfin, il a. Je dirais. Il a presque tout inventé dans le One Man Show. Il n'était pas le premier, mais il a vraiment révolutionné avec ce sens de la rupture, avec cette ironie permanente, etc. Et il y a une chanson que mes parents écoutaient beaucoup, qui est un peu nostalgique. D'ailleurs, moi, je suis de plus j'avance, plus je suis nostalgique. C'est terrible. Il faudrait que je me tourne un peu vers l'avenir.
Ne fondez pas en larmes, s'il vous plaît.
Non, je ne vais pas fondre en larmes. Mais c'était Timide et Rose, que j'entendais quand j'étais enfant. Timide et Rose, c'est-à-dire tu y as mis des roses.
Timide et Rose.
Mais c'est Timide et Rose, et j'adore cette chanson.
Quand à la fin d'un très long repas, les invités demandent à papa de chanter quelque chose. Sur la table, s'appuyant d'une main, papa chante un air très ancien, Histoire de Rose. C'est une chanson très compliquée, il y a quatre refrains et quatre couplets sans une seule pause. Comme papa se rappelle pas très bien, maman lui souffle derrière la main, Timide et Rose. C'est une chanson de 1900, il y a une fille qui meurt à 20 ans de tuberculose. Son père qui est au PTT, chaque jour sur sa tombe va porter des gerbes de roses. Le frère de papa, mon oncle Léon, dit qu'à cette époque-là, les chansons, c'était quelque chose. Comme papa se rappelle pas de la fin, maman lui dit va, ça ne fait rien, Timide et Rose. Je les revois tous deux dans le temps, papa tenant par le bras, maman, Timide et Rose, fredonnant déjà cette chanson dans la petite île de Robinson qu'a vu tant de choses. Maman m'a dit, ton père d'ailleurs n'a jamais pu l'apprendre par cœur et c'est la cause pour laquelle je l'ai épousé, sans moi il pourrait pas chanter l'histoire des roses. Moi, depuis le temps que je les connais, mes parents, quand la dispute naît, pour pas grand-chose, je prends mon air le plus innocent et je commence en me trompant l'histoire des roses. Papa rectifie, continue jusqu'à l'endroit qui se rappelle plus et porte close. La paix revient dans la maison quand maman finit la chanson, Timide et Rose. Maintenant je connais cette chanson-là, mais à l'endroit où se trompe papa, quelle drôle de chose. Moi non plus je me rappelle pas bien quelles sont les deux phrases de la fin, et c'est la cause pour laquelle je me fais du souci, et j'attends de trouver moi aussi, Timide et Rose, une fille qui voudra pour la vie m'aider à dire comment finit l'histoire des roses.
Timide et Rose, c'était Robert Lamoureux, choisi par mon invité Philippe Chevalier. Philippe Chevalier, qui est devenu lui-même, finalement, au fil du temps, et après les spectacles en duo avec la Spalès, après les pièces de théâtre, une sorte de chansonnier, puisque chansonnier, on le sait, ça ne veut pas seulement dire chanter des chansons, mais parler de l'actualité. Et c'est quelque chose que vous faites aussi depuis des années, avec beaucoup de brio et de succès dans les émissions de télé et de radio, à commencer notamment par les grosses têtes du temps de Philippe Bouffard.
Oui,
vous aviez
votre
coup de, c'était le coup de sang de Philippe Chevalier.
Oui, hein. C'est ça. On était quelques-uns à faire un petit papier. Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean Amadou.
La bande des chansonniers, justement.
La bande des chansonniers.
Que vous avez rejoint à ce moment-là.
Que j'ai rejoint parce qu'avec La Spalès, on n'a jamais fait ça. Et moi, j'ai toujours été attiré par les chansonniers. Ça m'a, justement, on parlait Robert Lamoureux. Grélo et Roca et Grélo, etc. Et en côtoyant Jacques Maillot, Bernard, toute cette bande-là, Jean Amadou, etc., à la fois aux grosses têtes et puis maintenant à la revue de presse sur
et
Paris 1ère.
Et maintenant, c'est Paris 1ère, la très populaire revue de presse à la télévision.
Sous la houlette de Jérôme de Verdière, avec Stéphane Rose, enfin avec tous mes petits camarades, avec Régis
et
Maillot.
Et Mabie qui titille.
Qui me titille tout le temps pour m'embêter, mais pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font, parce que caricaturer la politique, moi, c'est pas tellement dans mon ADN, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Alors, je le fais d'une manière détournée, parce que je fais des portraits d'invités.
Des portraits d'invités,
sont complètement absurdes, puisque le but étant de ne pas pratiquement pas parler de l'invité. Enfin, je parle quand même de lui, il faut pas exagérer. Mais voilà, et là, je m'amuse beaucoup dans cette émission, vraiment. Voilà. Et chez Bouvard, aux grosses têtes, on apprend. Moi, j'ai beaucoup appris à parler vite et fort, parce que Philippe nous disait toujours, parler tout de suite, fort, même si ça n'a aucun intérêt, le principal, c'est de prendre la parole.
Ah oui, c'est ça. Et puis ça s'est arrêté quand Laurent Ruquier a pris la suite.
Quand Laurent Ruquier a remplacé Philippe, il ne m'a pas sollicité pour que j'intègre l'équipe. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme disait, c'est son choix. C'est son choix et d'ailleurs, il s'en tire très bien avec des gens. Alors, il a gardé quand même quelques anciens, dont Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, le terrible Jean-Jacques Perroni.
Qui est un de vos grands amis également.
Qui est mon grand copain, Jean-Jacques, oui. Toujours distingué.
Voilà. Et Paris 1ère, il faut le dire, c'est un spectacle, hein, c'est de la télévision en public.
Alors la revue de presse, c'est génial parce qu'on est en public. Alors là, malheureusement, heureusement, on va pouvoir continuer l'émission, mais on la fera, là, compte tenu de ce couvre-feu, mais de ce confinement, on va le faire sans public comme on l'a déjà fait une fois au mois de juin. Alors évidemment, c'est beaucoup moins chaleureux, bien sûr, et on est obligé de rire entre nous uniquement.
Ah oui, c'est plus difficile.
Mais on le fera.
Ça peut être complaisant.
Tant pis, Bobé.
En tout cas, Philippe Chevalier, je voulais aussi évoquer peut-être un autre aspect de votre vie et de vos passions que les auditeurs ne connaissent pas forcément tous, et qui m'a beaucoup amusé en relisant quelques articles sur vous, mais que je vais commencer par illustrer musicalement. La bande originale du film The Fox de Lars Kriedel, musique de Lalo Schifrin. Alors pour ma génération, je ne sais pas ce que ça dit aux gens plus jeunes, mais évidemment, on entend ça, on pense tout de suite les collants d'Im. C'était la musique de la publicité, choisie je crois par mon ami Eric Lippmann pour cette publicité qui était très très célèbre à l'époque.
Oui.
Mais mon Dieu, Philippe Chevalier, pourquoi est-ce que je vous passe une musique sur les collants d'Im?
Parce que vous faites appel, enfin vous faites référence à une casquette que j'ai portée longtemps. J'ai un petit peu mis ça sous le boisseau parce que c'est très compliqué l'art contemporain quand on commence à mettre le pied là-dedans. J'ai fait pendant 20 ans des photos de jambes de femmes en collant.
Voilà, c'était votre passion.
Alors, c'était ma passion et c'était ma marque de fabrique parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de photo qui ressemble à celle que j'ai faite. Parce que je faisais des gros plans sur des jambes de femmes qui étaient soit un petit peu fortes, un peu rondes, soit qui avaient une couleur de peau très brune. Et avec des collants un peu irisés, ça faisait des images.
Pas spécialement DIM, hein.
Ah non. Même non, c'était une autre marque.
Ah bon,
c'était une autre marque, c'était les collants Volford. Et j'avais même essayé d'être sponsorisé, mais bon, ils m'avaient ri au nez. Et j'ai fait beaucoup d'expositions de ça.
Voilà.
En mélangeant à la fois une sorte de naturalisme très expressif et puis une tendance à l'abstraction. C'est ça qui est amusant dans mon travail, comme on dit. Parce que,
ah oui. Bon, les artistes travaillent aujourd'hui.
Quand vous dites que vous êtes sur scène, bon, c'est de la rigolade. Quand vous faites de la photo, même la plus légère qu'il soit, j'espère qu'elles étaient légères, tout d'un coup, ça devient un travail.
Un travail.
Et j'ai fait ça pendant des années. Alors, je suis répertorié quand même dans tous les sites d'Arnet et d'Artprice, parce que j'ai vendu une photo aux enchères.
Ah oui.
Donc le fait d'avoir vendu une photo aux enchères, c'était au Crazy Horse, faut dire on revient sur la scène. Et mais c'est très compliqué parce qu'il faut avoir un discours. Alors j'avais une simili imitation de faux discours artificiel synthétique.
Ah oui,
synthétique.
Du discours artistique sur votre œuvre.
Mais moi je suis un brut, un naïf.
Ouais.
Je faisais ça parce que ça me plaisait. C'était pour moi la fixation de la recherche du paradis.
Vous ne chargiez pas de déconstruire les stéréotypes?
Non, pas du tout. Moi je suis plutôt un constructif. Et alors il y a une chose qui m'a... J'ai eu une fois un article, parce que j'ai eu des articles dans la presse qui étaient très élogieux. J'ai eu les honneurs de Libération, de Artpresse, je me demande s'il n'y a pas eu un papier dans Les Inrecuptibles. Et j'ai vu une fois que, en fait, cette obsession de la brillance était commune chez moi à la civilisation, à la culture des Donogos. Et ça m'a fait très plaisir.
Ah bah écoutez, on est très heureux de l'apprendre, voilà. Philippe Chevalier. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. D'abord pour cette pièce, Panique au ministère, qui j'espère bien va reprendre mois de décembre.
Oui.
Et on trouve les informations sur le site des Lucioles, votre producteur, pour savoir où va reprendre la tournée fonction des dates. Et puis,
Et puis j'espère qu'en janvier, on va pouvoir vraiment reprendre. Il y a des dates qui vont être reportées. Et on va être dans toute la France, qu'on a quand même une quarantaine de dates. Alors ça va de, je sais pas, il y a hier, il y a Agde, il y a Marseille, il y a Lyon, enfin voilà.
On trouvera tout ça sur le site de l'émission.
Voilà.
Mais encore un mot avant de vous quitter, Philippe Chevalier, vous connaissez Emmeline Bayard?
Alors je ne la connais pas bien. Je regrette d'ailleurs de ne pas la connaître bien parce que je trouve qu'on pourrait faire un duo.
Oui.
Parce que ça ferait Chevalier Bayard.
Ah, bon, pas mal. Oui.
Bah, donc il faut, vous pourrez lui dire tout à l'heure. Et non, je l'ai vu en revanche une fois en compagnie de mon camarade Las Palès
dans la mise en scène de
Michel Faux, un spectacle formidable que j'ai adoré. Et Emmeline Bayard m'a fait hurler de rire car
elle a un
tempérament comique. Alors elle n'a pas besoin de travailler. Tout est donné, tout est voilà.
Eh ben, elle sera avec nous dans un instant.
Mais qu'elle continue.
Merci, Philippe. On va se quitter avec une chanson que vous adorez, je crois, de Salvatore Adamo.
Oui.
Juste un mot.
Ça
s'appelle C'est ma vie.
Ah ben, je trouve que c'est la poésie pure et la nostalgie complète.
Voilà, l'excellent Salvatore Adamo.
Mais qui met en joie quand même.
Voilà, tout un projet.
Parce que l'élégie n'est pas incompatible avec la joie de vivre.
Merci de nous le dire ici et sur scène, Philippe
Merci,
Chevalier.
Benoît.
Et j'espère à bientôt.
L'histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, et parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.
C'est ma vie par Salvatore Adamo, un choix de mon invité Philippe Chevalier qui reprendra donc on l'espère bientôt Panique au Ministère. Vous en trouverez toutes les dates sur le site lesluciole.paris qui est le producteur de ce spectacle en tournée dans toute la France.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et je vous le disais, riche programme ce matin, puisqu'après Philippe Chevalier et avant Serge Laïque, j'ai la joie de retrouver cette merveilleuse artiste qui joue aussi bien qu'elle chante, dans les petits cabarets comme sur les plus grandes scènes. Écoutez-la d'ailleurs, elle s'appelle donc Emmeline Bayard.
Le lendemain du mariage, Daniel fit la proposition d'aller faire un petit voyage à Paris pour mon instruction. Au champ de Mars, nous arrivâmes, il me montra le pont d'Iéna et me dit, regarde ma femme, un monument qui t'étonnera. C'était une tour magnifique en fer, se dressant vers le ciel, et je m'écriai, oh, c'est magique! Ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau la tour Eiffel! Il me semblait voir un colosse construit de fer, cerclé d'airain, dans un accès d'amour féroce, se dressant d'un bond surhumain. Elle était si grande et si belle, la tour avec son ascenseur. Quelle mosse et quelle fière mandelle! Et je sentais battre mon cœur. Comme dans un rêve extatique, j'eus un plaisir surnaturel. Et dit tout bas d'un air pudique, oh, oh, Daniel, mon cher Daniel, oh, Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau, que c'est donc beau la tour Eiffel. Mon mari, surpris de ma joie, me dit, oui, 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 ce n'est pas sans talent. Mais chérie, il faut que tu vois un autre plus beau monument. Détourne de tes yeux de ce dôme, et puis tous les deux nous irons contempler la place Vendôme et la tour faite de canons. En fiacre quelques tours de roue, je vis un tuyau solennel, mais je dis en faisant l'amour, Daniel, mon cher Daniel, Daniel, mon cher Daniel, ça ne vaut pas la tour Eiffel. Et voilà mon Daniel qui bisque et qui me répond, c'est très bien, allons, allons par l'obélisque, c'est un monument égyptien. Il me montre, miséricorde, un monolithe, un petit nain, sur la place de la Concorde, se dressant chétif et mesquin. Je crus à une plaisanterie, et je lançai d'un ton cruel, c'est Rikiki. Daniel, mon cher Daniel, Daniel, mon cher Daniel, ça ne vaut pas, ça ne vaut pas la tour Eiffel. Enfin, fatigués, nous rentrâmes au grand hôtel continental. Daniel voulait, tout feu, tout flamme, user de son droit conjugal. Bon, il avait soufflé la bougie et me disait très animé, « Je sens ce soir, ma chérie, que je ne t'ai jamais tant aimé. » Pour moi, je ne voulais plus croire à rien qui fût exceptionnel. Pourtant, je dis dans la nuit noire. Oh, Daniel, mon cher Daniel. Daniel, mon cher Daniel. Eh bien, non, non, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas la Tour Eiffel.
Bonjour, Émeline Bayard.
Bonjour, Benoît.
Écoutez, moi, je trouve que vous avez un art de diseuse qui est digne de, je vais carrément le dire, d'Yvette Guilbert.
Ah, oh,
cette façon de passer du parler au chanter, de raconter en chantant, avec une belle voix quand même, d'ailleurs, en plus, pas seulement une voix de comédienne, une voix de chanteuse, mais et de raconter, on sent que vous aimez ça.
Oui, tout à fait. Alors, je suis très flattée parce qu'Yvette Guilbert, je suis absolument fan d'Yvette Guilbert. Je trouve que c'est une immense artiste.
Une immense artiste,
oui. On a quelques enregistrements d'elle, bon, malheureusement, qui ne sont pas très, très bons, forcément, enfin, au niveau sonore.
C'est fascinant.
Mais c'est fascinant.
Et d'ailleurs, oui. Pardon.
Non, mais je rebondis d'ailleurs sur ce que disait Philippe Chevalier. Je suis très flattée de ce qu'il disait sur moi tout à l'heure. Mais justement, c'est bien parce que je travaille énormément que je peux arriver à ce que les spectateurs voient sur scène. Et par exemple, cette chanson-là de la Tour Eiffel, je l'ai beaucoup travaillée.
Vous l'avez trouvée où?
Pour qu'elle semble fluide et que le sens parvienne si clairement. Alors, je l'ai trouvée, en fait, dans un recueil de Martin Penet.
Ah oui, bien sûr, notre excellente amie, voilà. Martin Penet.
Et en fait, souvent, ce qui se passe, moi, avec les chansons que je dégote, c'est que le texte est avant tout, c'est le texte qui est important avant la musique pour
oui,
moi.
Oui.
Et donc je lis, j'en ai lu beaucoup, 5000 à peu près. Et puis si ça m'intéresse, je garde. Et puis si ça m'intéresse pas, je mets de côté. Et puis ensuite, comme il faut toujours qu'il y ait un thème dans les récitals que je propose, ben voilà, je dois malheureusement faire le deuil de certaines chansons. Et ensuite, la plupart du temps, comme ces partitions ne sont plus éditées, je vais à la Bibliothèque nationale pour retrouver la musique.
Et cette chanson, donc, elle figure donc dans votre spectacle On purge bébé, la pièce en un acte très très drôle et loufoque de Feydeau,
oui.
Qui malheureusement, je dis la même question qu'à Philippe Chevalier, s'interrompt pour le mois de novembre. Ça doit être très dur quand on vient de commencer un spectacle et qu'on y a travaillé pendant des mois, j'imagine.
Oui, elle s'interrompt en plein envol, oui, c'est pas facile.
C'est pas facile. Hein. Vous avez joué, vous vous êtes d'abord adapté au couvre-feu en faisant des séances à 18h, et puis finalement là, patatras. Mais bon, voilà, la pièce a été montée quand même, déjà jouée un certain nombre de fois, on espère qu'elle va reprendre. Et vous avez eu l'idée donc de ponctuer, puisque vous êtes à la fois l'interprète et la mise en scène, votre spectacle de quelques-unes de ces chansons.
Exactement. Et alors la Tour Eiffel, la chanson que vous venez d'entendre, donne le là. Du spectacle. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'était que Feydeau et ses chansons se rencontrent.
Oui.
Il se trouve qu'avant 1864, les couplets chantés étaient obligatoires dans les vaudevilles. Et puis ensuite, oui. Ça s'est perdu. Donc Feydeau est arrivé après, bien évidemment. Et donc je tenais à prendre une sorte de comédie de mœurs qu'est On purge bébé. En plus, j'ai un lieu de prédilection, c'est le couple pour moi, c'est vraiment l'endroit de mon travail. Et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il y ait des chansons qui ponctuent donc cette pièce, comme pour en fait dévoiler leur inconscient, c'est-à-dire qu'à des moments où les dialogues s'arrêtent parce que sinon les personnages vont finir par s'étrangler, bien j'essaie d'ouvrir une sorte de fenêtre comme ça, à travers laquelle les personnages peuvent exulter au public tout ce qu'ils ne peuvent pas dire en face à l'autre personnage.
Ce qui est fascinant d'ailleurs dans cette pièce de Feydeau, comme dans l'art de Feydeau en général, c'est le mélange de quelque chose à la fois, je dirais, d'extrêmement banal et d'extrêmement quotidien, et en même temps d'un grain de folie qui peu à peu s'empare de ces personnages ordinaires, quoi, dans leurs échanges et dans le sujet si dérisoire, en l'occurrence, qui est résumé par le titre On purge bébé.
Oui. Alors après, Fedot est un génie. C'est un génie d'auteur qui me fascine, mais toujours. Bon, Dieu sait si je l'ai lu, relu et travaillé cette pièce. Mais il a cet art musical de faire sonner les répliques, de faire se rencontrer des personnages qui ne devraient jamais se rencontrer dans les mêmes situations et de créer l'hilarité à partir du moment où on veut bien interroger le texte. Ouais. C'est-à-dire qu'On purge bébé, certes, c'est le titre, mais il ne faut pas y voir du scatologique, en fait. C'est-à-dire qu'il utilise les ressorts du scatologique pour mieux mettre à l'aise des personnages.
Et surtout les relations de ce couple.
Exactement.
Voilà.
Ouais. C'est essentiellement là-dessus.
Il passe son temps à s'engueuler pendant toute la pièce.
Exactement. Ouais. Évidemment, et ça monte en progression.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur la pièce et sa distribution, mais tiens, vous m'avez fait vraiment plaisir parce que vous m'avez envoyé donc quelques-unes des chansons que vous avez choisies. Et alors, vous m'avez fait découvrir, Dieu sait pourtant que j'aime et que je connais Fernandel, une chanson de Fernandel que je ne connaissais pas, qu'il a enregistrée plutôt à la fin de sa vie dans le palmarès des chansons. Et c'est vraiment une chanson, du très bon Fernandel. Le titre.
Alors, c'est Si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Et n'oublierons pas les auteurs, Michel Rive-Gauche. Oui. Et Jean Ledru. Voilà.
Tes yeux sont comme deux étoiles qui prendraient le jour pour la nuit. Au ciel si bleu de notre amour sans voile, si je puis m'exprimer ainsi. Telle une pêche provençale, ta bouche a la saveur d'un fruit. Mon amour, y a que ton nez qui la fout mal. Si je puis m'exprimer ainsi. Ta voix comme une harpe chante, et j'aime son doux vibrato. Ta voix troublante et caressante, aux adagios amoroso. Je pourrais l'écouter des heures, cette voix si douce à mon cœur. Dommage que tu dises toujours des conneries. Si je puis m'exprimer ainsi. J'ai lu Ronsard, Villon, Rimbaud, Verlaine, Musset, San Antonio, Astérix et Chéri Bibi. Pourtant, écoute bien ceci. Jamais autant que dans tes yeux, j'ai lu combien j'étais heureux. Ta main diaphane et opaline en messagère de mon cœur joue souvent pour moi de la mandoline pendant que s'envolent les heures. Comme jouait jadis Euterpe, tu joues pour chasser mon ennui. Dommage que la mandoline se m'emmerde. Si je puis m'exprimer ainsi. Tu es mon soleil de minuit, car tu te montres tour à tour comme la clarté de mes nuits, comme le soleil de tous mes jours. Tu règnes avec toute ta grâce sur chaque moment de ma vie. Dommage que des fois, franchement, tu me les casses. Si je puis m'exprimer ainsi. Mais malgré tout, je t'aime, tu vois. Et ceux à qui ça ne plaît pas et qu'ils voudraient que je te perde, je leur dis simplement merci.
Voilà, c'était Fernandel dans le palmarès des chansons, un enregistrement public d'une chanson que je ne connaissais pas, mais que vous utilisez, donc Emmeline Bayard, dans On purge bébé de Fedot, qui a commencé il y a quelques semaines au théâtre de l'Atelier. Et effectivement, on imagine très bien que c'est à peu près le genre de pensée que le mari peut avoir sur sa femme au cours de la pièce, c'est ça ?
Exactement. Et c'est Éric Prat qui est fabuleux, qui s'est mis à chanter pour l'occasion et qui interprète divinement cette chanson.
Voilà.
Qui joue Faut la voir. d'Avoine.
Alors merci de, à la fois de nous donner le plaisir d'aller applaudir Fedo. On espère donc que ça va reprendre dès que possible, et puis de nous faire en même temps découvrir des chansons. Il faut dire, Emmeline Bayard, que vous avez une carrière assez singulière, parce que donc vous êtes originaire du nord de la France, vous êtes venue à Paris, vous avez travaillé notamment au cours Florent, et puis vous avez fait vos débuts dans un certain nombre de spectacles, puis même de cinéma. On se rappelle de vous notamment récemment dans Bécassine, vous étiez formidable. Il y a eu Fric Frac, mais il y a eu auparavant aussi beaucoup de spectacles musicaux que vous avez donnés, après avoir travaillé également le chant. Donc vous avez eu depuis le départ, au fond, cette double attirance pour la chanson et pour le théâtre.
Oui, tout à fait. Alors en plus, je crois que je vous l'avais dit lors d'une dernière émission. D'ailleurs, je suis venue il y a à peu près 2 ans chez vous.
C'était une joie de vous recevoir à l'occasion de Fric Frac.
Exactement, j'étais ravie aussi. Et alors, je pense que j'en avais déjà parlé. Je viens d'abord de la musique, c'est-à-dire que j'ai fait petite fille ce qu'on appelle les classes CHAM, donc au conservatoire de Lille, le matin à l'école, l'après-midi le conservatoire. Et bon, cette passion, de toute façon, pour la chanson est arrivée très tôt dans mon enfance, dans ma petite enfance. Et puis il se trouve que quelques années plus tard, après avoir fait Florent, j'ai fait le conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, le CNSAD, où là-bas, j'ai aussi beaucoup développé le rapport au chant et à ces chansons qui racontent des histoires. Parce oui. que, encore une fois, l'accent que je mets toujours, c'est sur l'interprétation.
Mais c'était quelque chose de courant chez les comédiens, on peut dire, jusqu'aux années 50. Aujourd'hui, c'est plus rare, les comédiens chantants. Et
c'est
une
vrai.
Grande tradition, effectivement, dans le théâtre et le cinéma français.
Oui, c'est vrai. En tout cas, le comédien chantant de la chanson, parce qu'il y a voilà. quand même la comédie musicale qui arrive. Mais effectivement, cet endroit-là de spectacle, il est plus rare, oui.
Alors, vos spectacles musicaux, il faut le rappeler, vous les avez donnés, je crois, d'abord au Rond-Point, avec Jean-Michel Ribes, qui a su entendre votre petite musique.
N'est-ce pas?
Mais il y avait eu également parmi vos mentors notre ami Philippe Meyer.
Tout à fait, hein, tout à fait. Ouais.
Qui vous a invité aussi dans des spectacles. Et puis ensuite, vous êtes passé à l'Opéra Comique, déjà plusieurs fois.
Oui.
Et en même temps, vous avez donné régulièrement des petits tours de chant plus intimes au Kibélé, à Paris.
Oui.
Et tout ça, finalement, vous avez forgé un répertoire immense, peu à peu, avec vos complices pianistes.
Exactement, oui, notamment Manuel Peskin, avec qui je travaille beaucoup. D'ailleurs, tous les récitals sont nés avec lui. Et puis, il y en a un qui est resté plus discret, qu'on a travaillé et joué à Grignan, pour le Festival de Grignan, le Festival de la Correspondance, qui était une correspondance de Piaf. Et ponctué par des chansons. Je compte retrouver ces scènes, et notamment le Kafkons dont vous parliez, le Kibélé, où j'ai joué pendant 7 ans un récital d'Elle à lui qui a eu un énorme succès.
Ouais.
Et j'aime énormément ce rapport de petite salle pour ce genre de prestations. Et il y a une rencontre avec le public qui est assez incroyable, surtout qu'ensuite ils vont dîner au-dessus. Et on fait des rencontres merveilleuses d'auteurs, de peintres. Enfin, c'est assez extraordinaire.
Ça va de pair, on peut dire, avec une prédilection aussi au théâtre pour le vaudeville et même le boulevard, quand c'est du bon boulevard.
Oui, je pense. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit en début d'émission que je tenais à ce que Fedo rencontre ces chansons-là. Ça a beaucoup de sens pour moi. Et c'est vrai que ça a du sens aussi en tant que comédienne de voyager entre les grandes salles et les salles plus intimes, notamment pour ces récitals.
Je propose qu'on vous retrouve alors maintenant, Emmeline Bayard, justement dans un extrait d'un de ces tours de chant. J'ai choisi une chanson, je crois, de Mireille et Jean Noin, qui s'intitule « Lettre à un monsieur ».
Oui.
Vous nous en dites juste un mot et puis on l'écoute.
Oui.
Découverte comme ça aussi en cherchant.
Oui, elle fait partie de « Delle à lui », donc le récital que j'ai créé il y a quelques années, qui n'arrête pas de se jouer. Enfin, là, pour l'heure, ouais. En ce moment, forcément, on n'a pas le choix. Mais...
Encore des histoires de couple, donc.
Encore des histoires de couple, exactement. Avec plus de tendresse, peut-être, celle-là.
On m'a remis 12 lettres, cher monsieur, de votre part. Je dois vous faire reconnaître que mon cœur, à votre égard, reste froid comme un lézard. Vous avez beau, quand je vous vois, me supplier à mi-voix, Vous avez beau la nuit, le jour, me téléphoner votre amour. Vous avez beau, pour me fléchir, pousser des cris d'assoupir. Vous avez beau m'offrir des fleurs et des bijoux baignés de pleurs. En suppliant, vous vous roulez à mes genoux. C'est effrayant, mais ça ne me fait rien du tout. Vous avez beau, trois fois par mois, vouloir vous pendre pour moi. Mon cher monsieur, c'est votre droit. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais les cœurs sont fantaisistes. Et puisqu'il s'agit d'amour, il se peut qu'à l'improviste, oh, il se peut très bien qu'un jour, je vous adore à mon tour. Et ce jour-là, vous aurez beau mettre mon cœur en lambeaux, vous aurez beau sans vous gêner me tromper presque sous mon nez. Tous les matins, si vous voulez, vous aurez beau m'engueuler, vous aurez beau sortir le soir et rentrer complètement noir, vous aurez beau tout démolir dans ma maison, je vous adorerai sans rime ni raison. Et vous pourrez, comme un putain, briser mon cœur et mon corps. Mais rassurez-vous sur mon sort, je ne vous aime pas encore.
Lettre à un monsieur, c'était encore Émeline Bayard avec au piano
Manuel Pesquine.
Manuel Pesquine, votre pianiste habituel de ce spectacle.
Voilà, et la Tour Eiffel, c'était Stéphane Corbin. Je ne sais pas si on l'a cité.
Stéphane Corbin. Voilà. Aujourd'hui, donc, vous avez mis en scène On purge bébé au théâtre de l'Atelier depuis la mi-octobre, le début octobre.
13 octobre, voilà. La première à l'Atelier. On a joué à Versailles, à Rouen et à Lyon avant quelques dates.
Et on espère que ça va reprendre donc au
n'est-ce
mois
pas
de décembre,
voilà. À l'Atelier, et une tournée est prévue en janvier à regarder sur le site de En Votre Compagnie.
Voilà. Et donc, Émeline Bayard, après vos succès de comédienne au théâtre et au cinéma, vos succès de chanteuse, là, c'est vraiment aussi Émeline Bayard, metteur en scène, qui est à l'honneur. Et c'est un métier qui vous plaît, qui grandit dans vos projets.
Oui, c'était une première mise en scène. C'est une première mise en scène. J'y ai pris goût et je vais recommencer.
C'est vrai. Il va falloir faire des choix, ça va être difficile.
Mais pas forcément, parce que déjà, on peut mettre en scène sans jouer. On peut mettre en scène en jouant, ce qui est le cas là, du Fédo. Et c'est plutôt très heureux. Ça s'est extrêmement bien passé avec tous mes partenaires. Fabuleux, citons-les, Éric Prat, Manuel Leliève, Valentine Alaki, Delphine Lacheteau et Thomas Ribière, Emmanuel Pesquine au piano. Parce qu'il y a un piano sur scène, ça c'est assez fabuleux, le public en raffole.
Voilà, donc ça c'est, voilà. C'est votre actualité. Le prochain spectacle, donc, on ne sait pas encore si vous serez metteur en scène, chanteuse ou actrice, mais il y en aura qui vont venir.
Peut-être tous les trois, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a des demandes, il y a des envies, et le confinement peut-être permettra d'accoucher d'un nouveau spectacle. Enfin, en tout cas, les prémices sont là.
Il y a quand même quelque chose qui serait logique après toutes ces expériences, Émeline Bayard, c'est que vous nous montiez une opérette.
j'y songe.
Ah, vous après, y songez.
Oui, bien sûr, j'y songe. Mais il faut trouver la bonne, faut trouver. Oui. Voilà, j'y songe.
Le théâtre, la production, etc. Mais dites donc, alors on serait drôlement content que vous y mettiez.
Bah écoutez, je prends note.
Vous viendrez nous en parler et on va se quitter. Puis pourquoi pas justement avec une opérette, Fifi, ça vous plaît?
Formidable, j'aime beaucoup Fifi.
Fifi avec Bourvil en plus.
En plus. Avec Bourvil, que j'admire.
On écoute le final. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Émeline Bayard.
Merci.
Pour être heureux, que faut-il? Un peu d'organisation. relation, c'est logique. À nous cinq, y a pas d'erreur, nous représentons tout le bonheur domestique.
Je suis la femme, moi la maîtresse.
Je suis le mari, je suis l'amant, moi le protecteur.
Que dans chaque pièce on verra constamment, indubitablement, inévitablement, nous formons le quintet. Que dans toute opérette, d'audran ou de planquette, on verra s'embrasser. Si le beurre par principe se remplace par le type, nous sommes nous les cinq types, on ne peut pas remplacer. Nous formons le quintet. Que dans toute opérette, d'audran ou de planquette, on verra s'embrasser. Si le beurre par principe se remplace par le type, nous sommes nous les cinq types, on ne peut pas remplacer. Nous formons le quintet. Que dans toute opérette,
attendez, maintenant que le bonheur domestique est rétabli, je propose que vous preniez la pause.
Opinons, toute réflexion faite, je trouve qu'il est temps d'aller se coucher. L'opéra est terminé.
Et moi, Périclès.
Et Fifi.
Nous venons protester
contre cette façon de nous mettre en pièces.
On risque en vérité
de faire péricliter toute notre célébrité.
Voyant notre vie intime,
tous ceux qui nous estiment
diront mais c'est de la frime
ce qu'on nous a raconté.
Tous ces gens qu'on renomme
honnêtes femmes et grands hommes
ne valent pas mieux en somme que toute l'humanité.
Non, ces petits couchages
ne sont pas davantage,
mesdames, que du chantage,
afin de nous faire chanter
heureux si ce chantage
charmant aréopage
n'est pas le désavantage de vous désenchanter. Non, ces petits couchages ne sont pas davantage, mesdames, que du chantage, afin de nous faire chanter heureux si ce chantage charmant aréopage n'est pas le désavantage de vous désenchanter.
Bourville, Germaine Roger et tous leurs acolytes dans ce final de Fifi, l'opérette de Christine et Villemette, ici sous la direction de Marcel Cariven.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et tiens, une petite précision, un courriel d'auditeur qui me dit, suite au moment où nous évoquions au début la situation sanitaire, les difficultés des théâtres, cet auditeur qui m'écrit « Pouvez-vous préciser à Monsieur Chevalier que les cliniques privées sont bien mobilisées ?» Il importe de le dire et de le rappeler effectivement, quoique il ait pu être dit tout à l'heure. On va retrouver dans un instant Serge Laïc, mais tiens, puisqu'on a commencé avec le téléphone et que le téléphone a inspiré tant de belles chansons, je vous en propose encore une, c'est Odette Laure dans « Allô, mon cœur ».
Allô, mon cœur.
C'est moi, mon cœur.
Y as-tu bien dormi?
Mais oui, j'ai bien dormi.
Allô, mon cœur.
Quoi donc, mon cœur?
J'ai rêvé cette nuit.
Moi, j'ai rêvé aussi.
De qui, mon cœur?
De toi, mon cœur.
Moi, de toi, ma chérie.
Tu le dis parce que je l'ai dit.
Mais non, mon cœur.
Vraiment, mon cœur.
Je te le jure, mamie. Tu sais très bien.
Que sais-je très bien?
Que je t'aime à la folie.
Que tu m'aimes à la folie.
Hier, bien moins.
Comment, bien moins?
Oui, bien moins qu'aujourd'hui. Donne-moi mon cœur.
Quoi donc, mon cœur?
Un petit baiser.
Je veux bien le donner, oui, mais pour ça.
Eh bien, pour ça.
Il faudrait que tu sois là.
Alors, mon cœur.
Je t'écoute, mon cœur.
La voiture est en bas.
Quoi, tu es déjà là?
Je t'emmène, mon cœur.
Où ça, mon cœur?
Déjeuner dans les bois.
Je descends, me voilà.
Bonjour, ma vie.
Bonjour, chérie.
Partons en amoureux.
Partons, le ciel est bleu.
Près de l'île Adam.
Oui, cher Adam.
L'auberge nous attend. Après le repas.
Ben, qu'est-ce qu'on fait? phrase.
Ce qu'on peut faire dans les bois.
Quand le loup n'y est pas.
Puis à la nuit.
Le cœur ravi, nous regagnerons Paris.
Vends ta maison.
Vends ma maison.
Je te quitterai.
Avec regret.
Bonne nuit, ma fleur.
Bonne nuit, mon cœur.
À demain au récepteur. Pour savoir où m'a mis.
Si tu as bien dormi,
bien rêvé ma douceur,
allons mon cœur.
Odette Laure et Jean Valmance, une ravissante chanson, Allô mon cœur, puisqu'il va bien falloir nous habituer à parler au téléphone plutôt qu'à nous voir en vrai. Et c'est d'ailleurs au téléphone que nous allons tout de suite retrouver Serge Elahi. Bonjour Serge.
Bonjour cher Benoît.
Et voilà, une fois n'est pas coutume, vous êtes dans votre bonne ville d'Évreux, puisque nous respectons les nouvelles règles, bien entendu. Et je suis heureux que vous soyez quand même avec nous ce matin au téléphone.
J'en suis très heureux.
Voilà, et vous avez choisi aujourd'hui donc un programme de musique légère, de musique d'orchestre, de toutes sortes, avec je crois un thème.
Oui, les élections américaines, puisque dans quelques jours se déroulent les élections présidentielles aux États-Unis. Alors l'occasion était donc trop belle d'évoquer quelques solistes ou formations ayant tenu là-bas aux États-Unis le haut du pavé, en commençant par Percy Faith, véritable star parmi les grands chefs d'orchestre internationaux, vous le savez bien, cher Benoît. Eh bien, Percy enregistrera d'innombrables titres instrumentaux, toujours finement réalisés, à l'exemple de The Hammer Song, que l'on connaît mieux sous le titre de « Si j'avais un marteau », chanson mise en lumière en 1963 par Trini Lopez, premier succès pour lui, chanteur malheureusement disparu récemment en août 2020 à l'âge de 83 ans.
Thank you.
Si j'avais un marteau, The Hammer Song avec l'orchestre de Persiface en 1964. Un choix ce matin donc de Serge Laïc qui est avec nous au téléphone. C'est bien Claude François qui a popularisé cette chanson en France, Serge.
Évidemment avec l'orchestre de Christian Chevalier.
Pour ah vous. Voilà, bah voilà.
Voilà. Alors nous poursuivons avec le groupe de banjoïstes baptisé les Banjo Barons, entouré par toute une palette instrumentale qui fut organisée par Marty Manning, un arrangeur réputé, qui, dans sa courte carrière, puisqu'il est décédé à 55 ans, fut associé au crooner Tony Bennett ou à Barbara Streisand. Là, les Banjo Barons jouent un pot-pourri de trois standards que je vous laisse découvrir, Benoît.
Medley, comme on l'a dit, de trois standards, Everybody, Love My Baby, Little Girl et Heartache. Oui, voilà. Donc Serge et Laïc, vous avez choisi ces morceaux par le Banjo Baron et les arrangements, j'ai trouvé formidables, de Marty Manning. Vous êtes le spécialiste mondial, n'est-ce pas, des arrangeurs, Serge et Laïc. En tout cas, des arrangeurs français, mais je ne savais pas que vous connaissiez aussi bien les arrangeurs américains. Il est formidable, ce Marty Manning.
Et oui, absolument. Alors bon, je vais vous en parler d'un autre maintenant. C'est vrai, Anthony, qui était surtout trompettiste, alors, ça va vous plaire, Benoît, parce qu'il est âgé de 98 ans, il est toujours vivant.
Ah, bah, je pourrais l'inviter alors.
Mais oui, absolument. Il débute la trompette dans sa prime jeunesse et à 18 ans, en 1940, il fait partie du prestigieux big band de Glenn Miller. Et d'ailleurs, on peut l'entendre à la trompette dans les versions originales de succès comme Chattanooga, Choo Choo. Après-guerre, en 1946, il forme son propre orchestre. Et Ray Anthony, je l'avais interviewé moi, il y a très longtemps, il y a plusieurs années, il se présente ici en quelques mots, avant d'interpréter un extrait du succès de David Rose, que tout le monde connaît, pas tous les amateurs connaissent, Holiday for Strings, qu'on devrait plutôt rebaptiser ici Holiday for Trumpets.
Hello, Ray.
Yeah, this is Ray Anthony from Hollywood, California, Los Angeles. Thank you.
Ah oui, formidable ce Holiday for Strings à la trompette, comme vous nous l'avez dit, Serge Laïc, puisque vous nous présentez ce matin un choix de musique d'orchestre léger américain à l'occasion de ces toutes prochaines élections présidentielles américaines.
Absolument. Alors une toute petite perle ensuite qu'aurait vraiment aimé Pierre Marcel Ander, j'ai dû la connaître d'ailleurs, celle écrite par l'harmoniciste et chef d'orchestre américain Richard Heyman. Eh bien, Richard Heyman interprète avec son orchestre Suzanne l'une de ses compositions, tout est tout à fait dans l'esprit, donc, je dis, de la musique de divertissement qu'adorait notre ami et grand spécialiste Pierre-Marcel Ander.
De la très jolie musique. En plus, tout ça est très très bien enregistré, n'est-ce pas, hein, Serge Laïc? C'était Suzanne par Richard Heyman et son orchestre. Une très belle prise de son, autant que bel arrangement.
Alors, on va dire un petit mot du morceau suivant, qui est interprété par le Boston Pops d'Arthur Fiedler, arrangé par Richard Heyman. Et il joue ici une musique de film, celle du film Bonanza. Voilà, nous écoutons Bonanza.
Voyage pré-électoral aux États-Unis en compagnie de Serge Laïc. Là, c'était Bonanza par Arthur Fiedler et le Boston Pops Orchestra, Serge.
Oui, absolument. Alors, est-ce que nous pouvons terminer avec petite musique d'Errol Garner que j'avais choisie parce que c'était pour vous faire plaisir, car c'est une de vos idoles.
C'est
et
vrai.
J'ai choisi la musique qui s'appelle Indecided, Indécis, pour les électeurs américains qui seraient encore eux-mêmes indécis aujourd'hui. Voilà.
Ben merci Serge pour ce joli choix musical et on se retrouve bientôt, peut-être au téléphone, j'espère même, pour de vrai.
Absolument.
Thank you.
Undecided, c'était le trio d'Errol Garner en 1951, choix de Serge Laïc avec qui nous étions pour terminer cette émission ce matin, préparée par Annie Comier avec Adelino Mello à la technique, réalisation Cyril Weber. Les programmes sont un petit peu bouleversés pour les semaines à venir, mais nous vous donnerons très prochainement sur le site de France Musique la liste des prochains invités d'Étonnez-moi Benoît. Vous avez maintenant rendez-vous sur France Musique avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.